sur RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir au Togo, et ce à 2 semaines des législatives. La tension sur place monte. La principale coalition de l'opposition a décidé de ne pas présenter de candidat. Elle dénonce notamment des irrégularités dans la préparation des élections et elle affirme qu'elle utilisera tous les moyens pour stopper le processus électoral. D'ailleurs, hier sur RFI, la coordinatrice de la coalition a confirmé cette stratégie. Il n'y aura pas d'élection, le peuple est déterminé à les empêcher, a-t-elle déclaré. Mais ce matin, également sur RFI, le ministre de la fonction publique a condamné ces propos qu'il qualifie d'incendiaires et d'affirmer que le processus électoral ira bien jusqu'à son terme. Alors, quelle issue à cette crise politique? On en parle, vous êtes très nombreux, des dizaines de réactions au standard, tout autant d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. Je lirai évidemment quelques commentaires tout à l'heure. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Vous avez écouté le journal de RFI, vous souhaitez un complément d'information. Eh bien, nous prenons le temps chaque matin avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants pour vous répondre. Shérif, bonjour.
Bonjour.
Allô, Shérif.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Je vous entends nettement mieux, vous nous appelez d'Abidjan, et vous avez des questions sur les Rohingyas.
Oui, le gouvernement bangladais a décidé de cantonner les réfugiés Rohingyas dans une île. Pourquoi avoir choisi l'île de Baltasar? Pourront-ils survenir à leurs besoins là-bas?
Alors c'est une bonne question, c'est vrai que des centaines de milliers de Rohingyas sont depuis plus d'un an réfugiés au Bangladesh, ils ont fui la Birmanie pour échapper aux violences, aux exactions de l'armée. Bonjour Vincent Souriot.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, et les autorités bangladaises ont donc décidé effectivement de loger une partie de ces 700 000 réfugiés sur une île qui est située tout de même à 30 km des côtes du Bangladesh.
C'est ça, c'est l'une des questions les plus controversées. Pourquoi avoir choisi cette île et pourquoi cet emplacement? 30 km des côtes du Bangladesh, ça veut dire accessible seulement par bateau avec un temps de navigation de 3 heures. Ça veut dire que pour quitter les côtes du Bangladesh et arriver sur cette île, il faudra 3 heures, une isolation totale. Si les Rohingyas s'installent sur place, pourront-ils se déplacer librement? On ne le sait pas encore et ça soulève des interrogations sur le respect du droit humanitaire qui prévoit la liberté de circulation pour les réfugiés. Ce que dit la police, c'est qu'il y aura des restrictions et qu'ils ne seront autorisés à quitter cette île seulement s'ils ont trouvé un pays d'accueil ou s'ils ont décidé de revenir en Birmanie. On peut imaginer que ça fera l'objet de négociations avec les Nations Unies, mais pour l'instant, le Bangladesh affiche une position très stricte sur ce sujet.
Oui, en tout cas, l'initiative du Bangladesh est loin de faire l'unanimité. Plusieurs ONG, notamment Human Rights Watch, parlent d'une prison à ciel ouvert. Concrètement, quelles seront les conditions de vie pour ces réfugiés Rohingyas sur cette île?
Alors, des cellules très étroites, 2 mètres sur 2, avec des barreaux aux fenêtres, des espaces confinés, très peu de salles de bain disponibles, donc évidemment très difficile à vivre, en particulier pour des familles. Et on sait que la plupart des gens qui se trouvent aujourd'hui au Bangladesh sont des femmes et des enfants. Pourquoi parle-t-on de prison à ciel ouvert? Parce que c'est vrai que ça y ressemble, mais il faut aussi garder, Juan, il faut garder en tête que les Rohingyas vivent aujourd'hui très difficilement dans des camps de fortune à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, qu'ils sont 1 million aujourd'hui rassemblés près de la frontière birmane, avec tout ce que ça implique en termes d'hygiène, de sécurité, de manque d'éducation. Donc ce projet effectivement est inabouti, les conditions semblent très difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, cette île est isolée, les cellules sont trop petites, la liberté de mouvement restreinte, mais on peut aussi y voir un signal des autorités du Bangladesh qui essayent de trouver des solutions pour sortir du blocage actuel et tenter d'exfiltrer en quelque sorte une partie de ces Rohingyas afin qu'ils soient relogés dans des conditions un tout petit peu meilleures que celles dans lesquelles ils vivent aujourd'hui.
Autre question, Shérif.
Oui, le gouvernement bangladaise avait initié un retour volontaire. Aucun réfugié ne s'est présenté. Comment explique-t-on ça?
Ah oui, c'est vrai que les bus qui étaient prévus pour le rapatriement des Rohingyas sont restés vides.
Oui.
Aucun Rohingya ne souhaite retourner en Birmanie à ce jour.
Bah c'est ça, c'est le critère principal. On avait prévu à l'origine 150 départs par jour à partir du Bangladesh vers la Birmanie, mais sur la base du volontariat. Et le Bangladesh a toujours dit qu'il ne forcerait personne à retourner en Birmanie. C'est l'étalon de cette situation. En quelque sorte, c'est vraiment la notion qu'il faut retenir, c'est le volontariat. Or, que s'est-il passé? Il n'y a eu aucun candidat au retour. D'abord, il y a la peur. Dans l'Arakan, l'état dont sont originaires la plupart des Rohingyas, il y a des manifestations hostiles à leur retour. Ils sont pas les bienvenus, ils sont considérés comme des envahisseurs, des gens qui n'ont jamais été originaires de cette région, qui ne sont pas birmans et qui ne sont pas des citoyens à part entière. Et c'est un sentiment partagé par bon nombre d'habitants de la région. Il y a d'ailleurs des manifestations hostiles, appuyées par des moines bouddhistes qui jouent sur le sentiment religieux, parce que cette minorité Rohingya, je le rappelle, est musulmane. Les bouddhistes sont majoritaires en Birmanie et les moines, certains moines en tout cas extrémistes, ont tenté de jouer sur ce facteur religieux pour dire on n'acceptera jamais qu'ils reviennent parce qu'en fait ils n'appartiennent pas à la nation birmane.
Donc ils n'ont aucune garantie, aucune assurance aujourd'hui de pouvoir retourner dans leur village qui pour la plupart d'entre eux ont été détruits, brûlés par l'armée birmane.
Et exactement, les conditions de vie, s'ils reviennent malgré tout, on ne sait pas pour aller où, des centaines, peut-être effectivement des milliers de villages ont été saccagés, ravagés, brûlés par l'armée birmane pour forcer les Rohingyas à partir. S'ils reviennent, ils n'ont plus de logement. Ils devront vivre dans des camps administrés par les autorités birmanes. Il y a déjà plus de 100 000 personnes dans ces camps qui sont installées près de Sitwe, la capitale de l'Arakan. Même chose qu'au Bangladesh. À l'origine, c'était temporaire, mais les Rohingyas sont bloqués dans ces camps parfois depuis des années, liberté de mouvement restreinte, etc. Et je signale que ces Rohingyas continuent de partir de Birmanie puisque plusieurs centaines d'entre eux, plusieurs milliers ces dernières semaines, ont été interpellés en mer. Alors qu'ils tentaient de fuir vers la Malaisie. Donc pour l'instant,
et l'Indonésie également.
Et l'Indonésie également. Donc le casse-tête continue, il est loin d'être résolu.
Merci Vincent Souriau. Shérif, a-t-on répondu à vos questions?
Oui.
Bonne journée alors.
Merci à vous.
Merci, bonne journée à Abidjan où il est 8h18, 33 9 693 693 70. Bonjour Lionel.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Libreville au Gabon, vous avez des questions sur la COP 24, la 24e conférence de l'ONU sur le climat qui se tient en ce moment en Pologne.
Tout à fait Juan, c'est dire qu'en 2015, les dirigeants du monde s'étaient engagés à réduire le réchauffement climatique de 2% et à poursuivre ses efforts pour atteindre 1%. Aujourd'hui, à la COP 24, certaines puissances grands pollueurs pourtant, notamment les États-Unis, le Brésil, menacent de se retirer et d'autres comme la France ont brillé par leur absence à cette assise. Alors qu'il est question de rédiger une feuille de route pour atteindre ces objectifs. Ma première question est de savoir comment expliquer un tel désintérêt subit de la part des dirigeants du monde à la COP 24.
Ouais, c'est vrai que très rares sont les chefs d'État à avoir fait le déplacement dans la ville charbonnière de Katowice. Bonjour Anne-Cécile Bras.
Bonjour Juan, bonjour Lionel.
Journaliste à RFI, spécialiste des questions environnementales, vous présentez tous les jeudis et vendredis le magazine C'est pas devant, c'est pas du vent. Expliquez-nous pourquoi, Anne-Cécile, la COP 24 est boudée par les principaux dirigeants étrangers.
Alors, pour c'est vrai que c'est très inquiétant, hein, comme le dit Laurence Toubiana, qui a négocié en tant qu'ambassadrice de la France sur le climat l'accord de Paris à la COP 21. Elle l'a dit, hein, il y a un relâchement politique. Alors c'est inquiétant. Alors d'abord, on peut expliquer pourquoi il y a un relâchement politique. D'abord, il y a eu le G20 juste avant la COP 24, donc certains dirigeants de ce monde considèrent qu'ils se sont déjà rencontrés. Pour la France, Édouard Philippe, le Premier ministre, devait y aller, mais il a été empêché à cause de la problématique des gilets jaunes. Après, c'est vrai que au-delà de ces cas particuliers, il y a quand même pas beaucoup de mobilisation. Alors, c'est inquiétant à double titre. D'abord, parce que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Elles devraient augmenter de plus de 2% en 2018, selon le Global Carbon Atlas. Et parce qu'il y a de plus en plus de déconnexion, finalement, entre les citoyens, les entreprises et les investisseurs qui s'engagent dans la lutte contre les changements climatiques, concrètement, au quotidien, et les États qui sont en retard et n'affiche pas des objectifs à la hauteur des enjeux. Je vous rappelle que si l'on additionne l'ensemble des ambitions affichées par les pays, nous sommes sur une trajectoire d'un réchauffement de plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui sera compliqué à gérer.
Oui, beaucoup disent que si Katowice est un échec, ce sera forcément l'échec de 2020 et par ricochet la fin de l'accord de Paris.
Oui, alors c'est-à-dire que cette conférence, elle est importante dans l'agenda climatique. Je crois que c'était la deuxième question de Lionel, que peut-on en attendre ? Et en effet, elle doit marquer, cette conférence, l'aboutissement de deux processus prévus par l'accord de Paris. Tout d'abord, l'adoption des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, qui doit entrer en vigueur en 2020. 2020, c'est demain. Et il y a trois points clés à négocier. Aujourd'hui, il y a toujours 230 pages sur la table à négocier. En 15 jours, ça va être compliqué. Et dans ces 230 pages, il y a trois thèmes principaux. La transparence, comment s'assurer que les engagements des États seront bien tenus en toute transparence. La finance, évidemment, toujours, au-delà du comptage et du rattrapage des flux. La discussion portera sur le montant de ces flux. Et ensuite, les mécanismes de compensation carbone, c'est-à-dire permettre à un pays de compenser ses émissions en achetant des crédits à un autre pays, le risque étant que ces émissions évitées soient comptabilisées deux fois, etc. Enfin bref, c'est assez technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'accord, les règles de la mise en œuvre de l'accord de Paris qui doivent être adoptées. Et si elles ne le sont pas à Katowice, ça va être difficile pour la suite. L'autre enjeu rapidement, c'est de dresser un premier bilan de l'action collective. Où en sommes-nous de l'effort général ? Est-il à la hauteur ? Je vous le disais tout à l'heure, la réponse est non. Mais comment faire pour rehausser l'ambition des États ? C'est tout l'enjeu aussi de cette COP24. Et les négociations vont être extrêmement tendues parce que, comme d'habitude, les pays en développement sont en attente d'annonces des pays développés. Et pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose.
Il n'y a pas grand-chose, d'autant qu'aucun grand dirigeant européen n'est sur place. Il y a tout de même des chefs d'État, notamment des chefs d'État africains. On peut citer les présidents du Nigeria, du Bénin, du Sénégal, du Botswana, de Maurice ou encore du Congo. Merci Anne-Cécile Bras, on vous retrouve cet après-midi pour le magazine C'est pas du vent. Lionel, je vous souhaite une belle journée à Libreville. Houda Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Hippolyte, qui nous appelle d'Île-de-France, a quelques questions à nous poser et à vous poser en l'occurrence, Houda. Bonjour Hippolyte.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, le roi du Maroc a tendu la main à l'Algérie pour reprendre les relations diplomatiques, sans réelle réponse officielle de la part de son voisin. Alors, mes questions sont celles-ci. Quels sont les différends à régler entre les deux pays ? Et comment explique-t-on le silence de l'Algérie face à la main tendue du Maroc ?
Alors, c'est une bonne question, Houda Ibrahim. On se souvient, et on en a parlé sur l'antenne des RFI, c'était il y a tout juste un mois, le roi Mohamed VI invitait l'Algérie, je cite, à dépasser les différences. C'était donc une main tendue aux voisins algériens. Et puis, récemment, le ministre marocain des Affaires étrangères a dit regretter ne pas avoir obtenu la moindre réponse officielle de la part d'Alger. Quel est le problème ?
Eh bien, tout le monde sait que l'Algérie, en ce moment, vit une période pas facile du tout. Et on sait que le président Bouteflika, officiellement, il l'a pas fait, mais probablement se présentera pour un nouveau mandat présidentiel, la cinquième, en avril 2019. Donc l'Algérie aujourd'hui attend ces élections. Il n'y a pas de décisions qui sont en train d'être prises et le Maroc le sait très bien. On ne sait pas si ce dossier prochainement, après ces élections, va atterrir à la présidence algérienne, au ministère des Affaires étrangères ou bien il sera aux mains de l'armée. Le Maroc, en adressant cette invitation à un dialogue direct entre Rabat et Alger, elle s'adressait en même temps à la communauté internationale, car il faut le rappeler, Rabat est très inquiète aujourd'hui. Inquiète pourquoi ? Parce que ce dossier, qui dure depuis près de 44 ans, ce conflit, est aujourd'hui... on a eu à l'ONU la décision 1424 qui a renouvelé la présence de l'ONU, de force de l'ONU, pour 6 mois seulement, pour la deuxième fois, et non pas pour un an. Et on a nommé John Bolton par le président américain Donald Trump comme conseiller à la sécurité nationale, rappelant que Bolton était le conseiller de James Baker sur ce dossier du Sahara quand il a été conseiller de l'ONU et qu'il est partisan de l'autodétermination et du référendum.
On parle du Sahara occidental qui est le principal point de discorde entre l'Algérie et le Maroc. C'est ce dossier qui plombe véritablement les relations depuis 40 ans. Ça signifie quoi? Que pour l'instant, Alger ne souhaite pas, n'accepte pas cette main tendue tant qu'il n'y aura pas l'élection présidentielle?
C'est pas qu'elle n'accepte pas. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un pour décider en Algérie de reprendre ce dossier qui est très compliqué. Et rappelons-le, c'est un dossier qui remonte à un conflit post-colonial. Post-colonial parce qu'il y a eu déjà un problème en 63, juste après l'indépendance de deux pays entre le Maroc et l'Algérie dans la région de Tindouf, qui a conduit à une guerre qu'on a oubliée aujourd'hui, la guerre de sable, qui a quand même duré quelques mois après des incidents, etc., à cette frontière même avec le Sahara. Rappelons que le Sahara, ça faisait partie du royaume de Maroc dans les décennies précédentes, avant la colonisation, où le royaume du Maroc allait jusqu'au fleuve du Sénégal et comprenait y compris la Mauritanie et le Sahara occidental, et que après la France a occupé le Maroc et
l'Espagne, la partie Sahara occidental.
Et il y a eu la marche verte et tout ce qu'on sait après. C'est un conflit aujourd'hui qui demande vraiment un engagement de deux parties, et j'ai l'impression que le Maroc, et selon plusieurs observateurs, a agi par rapport à des craintes. L'Algérie n'est pas encore prêt à agir.
Ouais, en tout cas, des discussions ont commencé hier à Genève autour de la question du Sahara occidental. C'est la première fois que tous les acteurs de cette crise sont autour d'une table et se reparlent depuis 6 ans. Merci beaucoup Houda Ibrahim. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
On a à peine 3 minutes pour parler, je suis désolé. Pour parler d'un sujet qui, à mon avis, passionne évidemment la plupart de nos auditeurs. Bonjour Fred.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes à Brazzaville, on vous écoute. Allô Fred? Alors Fred, il y a un petit problème, je me fais son porte-parole. Des silex remontant à plus de 2 millions d'années ont été découverts à Sétif en Algérie et pourraient faire de l'Algérie le berceau de l'humanité. Comment les archéologues sont-ils parvenus à cette découverte? Et surtout, la question qui intéresse tout le monde, est-ce qu'une telle découverte nous apprend, qu'est-ce que cette découverte nous apprend de nouveau sur les premiers humains?
Alors pour faire l'histoire très vite, c'est une équipe d'archéologues dirigée par l'Algérien Mohamed Sanouni qui ont fait des fouilles donc du côté de Sétif, on est à l'est d'Alger, à 300 km à peu près. Ils ont découvert des objets, des bouts de cailloux taillés où il y a des traces de choc et également des cadavres d'animaux qui visiblement portaient des coups. Grande surprise pour eux, quand ils ont daté ces objets, ils tombent sur 2,4 millions d'années. C'est vieux, c'est très 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 vieux, puisque les outils les plus anciens découverts ont 2,6 millions d'années, donc c'est à peu près la même échelle de temps, sauf que les plus vieux, on les a découverts à 5000 km de là, en Éthiopie.
Et c'est pour ça notamment qu'on dit que le berceau de l'humanité est en Afrique de l'Est.
Exactement. Donc se pose la question, qui a déposé ces outils en Algérie? Est-ce que c'est une population qui est venue d'Éthiopie, qui a fait les 5000 km en 200 000 ans? Ça a l'air beaucoup comme ça, 200 000 ans, mais pour des migrations humaines à cette époque-là, sachant que c'était des petits groupes nomades d'une quinzaine de personnes, c'est pas en tout cas l'avis de Mohamed Sanouni, qui lui pense que c'est une population qui vivait là et qui en même temps, à peu près qu'en Éthiopie, a développé ses outils. Donc pour l'instant, l'Éthiopie conserve son titre de berceau de l'humanité puisqu'ils sont plus vieux de 200 000 ans, mais se pose la question, pourquoi pas, en fait, l'humanité serait apparue à plusieurs endroits à peu près en même temps. Se pose également la question de qu'est-ce qu'on appelle l'humanité? À partir de quand l'humanité est-elle devenue humanité? On considère en général que c'est l'invention des outils, de la technologie, c'est un 2,5 millions d'années à peu près, on est au moment où le genre Homo, nous on est Homo sapiens, on est les derniers représentants, les premiers c'était Homo habilis, c'était habilis justement par habile, capables de manier des outils, d'en concevoir. 2,5 millions d'années, donc c'est généralement la frontière qu'on prend. Donc dans ce cas-là, la question se pose. Si on monte un peu plus loin, par exemple les Australopithèques, là il y a pas match. Hein, c'est vraiment dans le rift africain, en Afrique de l'Est, où on a les plus vieux fossiles, dont certains remontent à 4 millions d'années.
Donc peut-être que cette thèse du berceau de l'humanité en Afrique de l'Est sera prochainement remise en cause.
Faudrait découvrir des fossiles humains sur place pour y répondre.
À suivre. D'ailleurs, vos explications, on les retrouve évidemment dans quelques minutes sur la page Facebook de l'émission. À réécouter, bien évidemment. Merci.